La saga de la Maison de Savoie, une chronique de Pierre Cardona.
Chères auditrices et auditeurs, bonjour. Je vous fais découvrir chaque semaine des personnages qui ont fait la richesse de notre belle Savoie. Pour continuer notre découverte de la saga de la Maison de Savoie, et après Thomas Ier, elle se poursuit par Ramédée IV, dit le Loué, de 1197 à 1253. Béatrice Marguerite de Genève, comtesse de Savoie et épouse de Thomas Ier, met au monde au château de Montmélian, en l'an de grâce 1197, le jeune Amédée. Il est le premier d'une belle famille forte de 14 enfants. Tous seront titrés. Parmi eux, Thomas épousera la nièce du pape Innocent IV, Guillaume sera évêque de Valence et de Liège, et Boniface le Bienheureux sera même archevêque de Cantorbéry, enterré à l'abbaye de Hautecombe. Quant à ses derniers frères, Pierre et Philippe, ils accéderont au trône de Savoie. Donc à 25 ans, Amédée épouse Marguerite de Vienne et de Bourgogne, qui lui donne Béatrix et Marguerite. Puis, deux ans plus tard, en 1224, devenu veuf, il épouse en seconde noces Cécile de Beau, nièce du comte de Provence, qui lui donne son fils Boniface, qui deviendra un jour comte de Savoie, mais aussi Béatrix, la jeune, Constance et Éléonore. Amédée doit attendre l'année 1233 et la mort de son père pour devenir le dixième comte de Savoie sous le nom d'Amédée IV. Désireux de recentrer son fief, il cède en apanage ses territoires du versant est des Alpes à son frère Thomas, qui devient ainsi comte de Piémont. De par sa parenthèse anglaise, il inaugure une nouvelle diplomatie avec la maison d'Angleterre. Tout en poursuivant ses excellentes relations avec l'empereur, en mariant sa fille à Manfred de Hohenstaufen, fils de Frédéric II, il devient duc de Chablais et d'Aoste. Mais, plus important encore, il fait inscrire Sabodia sur sa monnaie pour la première fois. Notons que c'est sous son règne, le 24 novembre 1248, que se produit la catastrophe du Mont Granier, qui provoque le chaos des abîmes de Myans. Certains des contemporains veulent y voir le châtiment divin du fait que le comte soit resté fidèle à l'empereur Frédéric II, que le pape a excommunié. Il meurt le 24 juin 1253 au château de Montmélian et est enterré à l'abbaye d'Hautecombe. Sa deuxième épouse, Cécile des Beaux, meurt en 1275, également inhumée à Hautecombe. Puis vient Boniface Ier le Roland, de 1244 à 1263. Premier fils d'Amédée IV et de Marguerite de Bourgogne, il naît le 1er décembre 1244. En 1253, à 9 ans, il devient le 11e comte de Savoie. Ses trois sœurs aînées sont loin et le voilà quasiment seul à la tête du comté. Les historiens ne lui font pas de cadeaux. Certains le traitent d'irresponsable, d'autres d'incapable. Certes, bien que sa fougue lui vaille son surnom de Roland, il mène des guerres désastreuses, en Flandre et en Piémont. Toujours est-il qu'il règne 10 ans entre 9 et 19 ans et qu'il meurt prisonnier des Piémontais révoltés en 1263. Puis Pierre II, dit le petit Charlemagne, règne entre 1203 et 1268. Il est né au château de Suse en 1203. Il est le 9e enfant de Thomas Ier et de Béatrix Marguerite de Genève. Il suit sa nièce Éléonore en Angleterre et devient comte de Richmond et d'Essex et un conseiller écouté du roi Henri III Plantagenet. Le prince héritier Édouard fait édifier l'hôtel de Savoie à Westminster où réside Pierre. Ce dernier est envoyé en ambassade auprès de Louis IX. Alors qu'il avoisine les 38 ans, il épouse le 3 décembre 1241 à Châtillon-sur-Cluse Agnès de Faucigny et récupère ainsi cette baronnie. Il n'est pas destiné à régner à la tête de la Savoie et pourtant son neveu Boniface Ier le Roland, alors comte décédant sans descendance en 1263, les états généraux de Savoie appellent Pierre qui devient Pierre II, comte de Savoie. Il est déjà âgé de 60 ans. Précisons que pour ce faire, il écarte les enfants de son frère Thomas. Appelé par ses contemporains le petit Charlemagne, cet oncle du roi d'Angleterre, et un des princes les plus puissants de son temps. Vicaire impérial, il mène une politique de prestige et de grandeur pour ses états et fait notamment transformer le château de Chillon, où il réside par l'architecte Pierre Meynier, qui lui donne l'aspect actuel. Bâti sur les rives lémaniques, cette ancienne propriété des évêques de Sion avait été inféodée au comte de Savoie dès le XIIe siècle. Il agrandit ses terres vers l'ouest du Chablais, vers le pays de Gex et la région de Genève, qu'il ajoute aux possessions léguées et aux Faucigny. Peut-être peut-on lui reprocher d'avoir donné cette terre pour la dot de sa fille Béatrix lors de son mariage avec le dauphin Guigne VII. En tout cas, la suite des événements montre bien qu'il y eut une erreur du petit Charlemagne. Sur le plan administratif, il dote ses états de structures, d'inspiration anglaise. C'est lui, par exemple, qui fait codifier les travaux des notaires. On lui doit les premiers statuts de Savoie et la création de la Cour des comptes. L'abbé Nantelme de Saint-Maurice d'Agaume, lui ayant fait don de l'anneau de Saint-Maurice, palladium de la race royale de Bourgogne, en mémoire des bienfaits de son frère Amédée IV, à la condition que cette bague restât toujours la propriété des comtes de Savoie et que fût tenue la promesse d'achever le clocher du monastère, nous dit la reine Marie-Josée. Cette relique disparue à la Révolution sert dès lors à l'investiture des comtes puis des ducs de Savoie. Celui qui aimait à dire « mes titres sont mon épée » meurt à Pierre-Châtel le 16 mai 1268. Tout comme sa femme décédée le 11 août. N'ayant pour toute descendance que sa fille, Béatrice la Grande, dauphine, il est inhumé à l'abbaye de Hautecombe et lui succède son frère Philippe Ier. Philippe Ier règne de 1207 à 1285. Il est né à Aiguebelle. Il est le dixième et dernier enfant de Thomas Ier et de Béatrice Marguerite de Genève. Destiné à la carrière ecclésiastique, il devient chanoine, princier de Metz, prévôt de Saint-Dosien de Bruges, évêque de Valence, puis archevêque élu de Lyon en 1246, et enfin protecteur du pape Innocent IV. Notons au passage qu'il ne reçoit jamais des ordres sacrés majeurs. En 1268, il devient comte de Bourgogne en épousant Alice de Métrany, comtesse de Bourgogne, et l'année suivante, il succède à son frère Pierre II, mort sans héritier, à la tête du comté de Savoie. Un peu dans les mêmes conditions que son frère, en éliminant tous les prétendants. Il achète plusieurs châteaux et terres en Franche-Comté et dans le Viennois. Le 8 mars 1279, il a la douleur de perdre son épouse et se retrouve sans enfant. Il ne cesse pas pour autant le combat qu'il mène contre les Habsbourg et acquiert en 1280 la souveraineté sur la ville de Turin que la maison de Savoie gardera jusqu'au XXe siècle. Il aime tout particulièrement le Viennois et fait construire le château de Septem. Fait gonfalonier de la Sainte Église par le pape, il réside souvent à Saint-Georges d'Espéranche. Philippe, n'ayant point de descendance, décide lui-même de sa succession avec la bénédiction de son suzerain, l'empereur Henri VII, et désigne son neveu Amédée pour être Amédée V, à l'exclusion de Thomas, tous deux fils de Thomas II. Il meurt hydropique, à 79 ans, âge fort respectable en ce temps-là, le 17 août 1285, au château de Roussillon-en-Bugey. Inhumé à Hautecombe, il ne nous reste qu'un cénotaphe. Cette chronique est tirée d'un livre de Michel Germain, président de la Société des auteurs savoyards, écrivain et historien savoyard. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, et surtout, à une prochaine fois.